RCF.
On dit que c'est la plus belle conquête de l'homme. Il figure sur les parois des grottes ornées par l'homme il y a plus de 30 000 ans. Le cheval est un des animaux qui suscite le plus d'intérêt, voire de passion. On en veut pour preuve les presque 700 000 licenciés de la Fédération française d'équitation. Mais entre les peintures rupestres et les jeux en ligne où on les élève dans des haras virtuels, l'histoire du cheval est riche et complexe et elle en dit long également sur l'histoire de l'homme. Jean-Pierre Digard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'invité de cette série pour parler de l'histoire du cheval. Vous êtes ethnologue, spécialiste de l'Iran et de l'histoire du cheval. Vous êtes d'ailleurs l'auteur d'une histoire du cheval, art, technique et société, paru chez Actes Sud. C'est un hasard si vous vous intéressez au cheval, ou bien quand on s'intéresse finalement à l'histoire des coutumes, à l'histoire de l'homme, et en particulier à l'histoire de l'Iran, on croise forcément la route du cheval.
En fait, si c'est lié pour moi, c'est pour des raisons de pure commodité. Lorsque j'ai su que j'allais faire ma thèse de doctorat sur une tribu du sud de l'Iran, tribu de nomades cavaliers, j'ai dû faire deux choses d'urgence, apprendre le persan et apprendre à monter à cheval. Et cette deuxième expérience que j'ai trouvée beaucoup plus passionnante que la première, qui m'a suivi toute sa vie, que je suis devenu cavalier, que je me suis intéressé intellectuellement et professionnellement à cet animal, qui en effet, comme vous l'avez souligné, nous apprend beaucoup sur l'homme.
Pourquoi ?
Comme vous l'avez dit, c'est un animal qui a beaucoup passionné l'homme, d'abord qui lui a beaucoup résisté, c'est un des derniers animaux à être domestiqué, c'est un animal qui fuyait beaucoup, et l'homme déteste qu'on le fuit, donc c'était un défi considérable. Et puis c'est un animal qui a beaucoup servi, d'une manière très particulière, d'avoir cette grosse bête entre les jambes, c'est pas, il y a qu'avec lui que ça peut se faire de cette manière. Et puis quand on est à cheval, on est en hauteur. Les artistes appellent ça la perspective cavalière. Et puis, on peut aussi aller très vite. Et donc, quand on est cavalier, du moins aux origines, quand les hommes de l'âge du bronze sont passés de la perspective piétonne à la perspective cavalière, et donc à la possibilité de se déplacer beaucoup plus vite, je suppose qu'ils ont dû apprendre aussi à réfléchir plus vite. Et je crois donc que le cheval a été un élément civilisateur de l'homme.
Est-ce qu'il est associé à un sentiment de puissance, un sentiment pouvoir
bien sûr,
pour l'homme ?
Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est un marqueur social. Le cheval est, dans beaucoup de sociétés, réservé aux nobles, aux officiers. D'ailleurs, j'introduis à cet égard une distinction entre ce que j'appelle les peuples cavaliers, où tout le monde monte peu ou prou à cheval et une équitation utilitaire, comme chez les peuples turcs, les mongols, etc. Et puis des sociétés à écuyer, où le cheval est réservé à une élite et travaillé et dressé de manière à servir et à valoriser cette élite et à montrer à la non-élite quelle est l'élite.
RCF, Véronique Alzieux.
Est-ce qu'on est capable de dire aujourd'hui quelle est la trace la plus ancienne du cheval ?
Eh bien, je crois que c'est ces gravures rupestres que vous avez évoquées, de la grotte Chauvet, moins 30 000. À l'époque, c'était un animal chassé.
C'était une proie pour l'homme.
C'est une proie pour l'homme, oui, bien sûr. Oui.
Qui s'en nourrissait ?
Qui s'en nourrissait, bien sûr.
Et le cheval, on sait à peu près, enfin l'ancêtre du cheval, à quelle période il est apparu ?
Alors, c'est difficile à dire. Il y a eu plusieurs prédécesseurs du cheval qui étaient de la taille d'un renard, qui sont nés en Amérique, qui n'y ont jamais survécu, qui sont passés en Asie. Et c'est seulement au XVIe siècle, on aura aussi l'occasion d'y revenir, que le cheval définitif, je veux dire, c'est-à-dire Equus prevalski, oui, voilà, celui qu'on connaît, a été réintroduit en Amérique par les conquistadors au XVIe siècle.
Donc le cheval n'est pas originaire d'Asie centrale ?
C'est là qu'il a été domestiqué, en tout cas, aux environs de 3500 ans avant Jésus-Christ, dans une vaste zone située au nord de la mer Caspienne, disons. Il y a un foyer d'Erefka qui a été très nettement identifié et étudié, mais il y en a d'autres Turkménistan, au Kazakhstan, etc.
Ce cheval qui est domestiqué, le tout premier, à quoi est-ce qu'il ressemble? Est-ce qu'on en a une idée précise?
C'est un cheval, c'est Equus Przewalski depuis de nombreuses années. Alors déjà, il faut faire une petite précision. Le taxon d'origine, c'était Equus Caballus pour le cheval domestique. Mais les nouvelles modes de taxonomie par l'ADN réunit les chevaux sauvages et le cheval domestique sous un même taxon qui est Equus Przewalski, du nom de cet officier de l'armée russe qui a découvert ce cheval qu'on a pris à l'époque comme un ancêtre du cheval domestique en Asie centrale.
Donc il l'a découvert au 19e siècle.
Voilà, c'est ça, la fin du 19e
siècle. Et alors ce cheval, il ressemble à quoi en termes de hauteur, de garrot par exemple?
Alors il est un peu plus petit que le cheval qu'on connaît, mais vous savez, il est en général d'une robe Isabelle, c'est-à-dire bec clair, jaune, avec une raie de mulet et une crinière un peu dressée.
Il est trapu?
Oui, c'est un cheval rustique. Tout le monde peut aller à la ménagerie du Jardin des Plantes. Il y a des chevaux de Przewalski.
Il y a des spécimens.
Il y a des spécimens. Il faut rendre, une fois n'est pas coutume, cet hommage aux os. C'est grâce aux os qu'on a pu conserver le cheval de Przewalski.
Alors l'homme envisage de le domestiquer parce qu'il sent que cet animal a un potentiel énorme et qu'il peut lui rendre des services?
Non. L'homme est loin de se douter de ce que va devenir le cheval lorsqu'il le domestique. La première chose troublante, c'est que le premier animal domestique, c'est le chien, moins 13 000 ans. Ensuite viennent grouper à peu près les herbivores, bœufs, chèvres, moutons et porcs entre moins 9000 et moins 7000. Et le cheval, c'est seulement moins 3500. On ne connaît pas bien la raison de ce retard. Simplement, on sait que le cheval est un animal dont la seule défense est la fuite. Donc c'est un animal très craintif, qui se laisse très difficilement approcher. Et on peut comprendre que l'homme, ayant déjà à sa disposition une réserve de viande en animaux sur pied avec tous ces animaux dont je viens de citer les noms.
Ce n'était pas une priorité.
C'était pas une priorité. Et lorsque ils ont domestiqué le cheval, le bœuf était attelé, pouvait être mangé, le porc, le bouton, la chèvre.
Alors c'était quoi? C'était plus un défi qu'autre chose?
Moi, je crois que c'est ça. Je crois que il y a dans la nature humaine et liée au développement de l'hominisation, une espèce de tendance mégalomaniaque à vouloir s'approprier la nature, agir sur elle, la transformer. Et cet animal qui passait son temps à fuir, c'est devenu insupportable à un certain moment. On sait que le cheval est très craintif et très fuyard, mais aussi très curieux et très gourmand. Donc, on a dû trouver le moyen de les coincer. Il y a aussi un contexte aussi où sa domestication s'est produite à une époque de relatif réchauffement où la forêt était en train de gagner sur la steppe. Et donc, c'est un danger pour le cheval. Si vous voulez, la domestication, c'est toujours un mouvement de l'homme vers l'animal et de l'animal vers l'homme. En quelque sorte, l'animal...
Un consentement mutuel.
Voilà,
quoi.
C'est ça. doit consentir d'une certaine manière à sa domestication. Et ça, je crois que ça s'est produit pour le cheval. On peut évoquer aussi une hypothèse religieuse, mais on n'en a aucune. Le seul élément qui permette d'évoquer quelque chose de religieux, c'est les chevaux enterrés avec des hommes. Bon. Mais la chose la plus évidente, c'est que l'animal était mangé, au même titre que les autres animaux domestiques. Et ça n'est que très longtemps après, et ça c'est un des grands mystères de la domestication du cheval, la première utilisation, outre l'hypophagie, la première utilisation parmi celles qu'on connaît aujourd'hui du cheval vivant, n'est venue que un millénaire après sa domestication.
Et elle a consisté en quoi cette utilisation ?
La traction. Son utilisation, notamment pour la guerre, est liée avec l'invention de la roue à rayons qui permettait d'avoir des véhicules légers qui pouvaient s'atteler au cheval et profiter de la vitesse du cheval. Et dès l'attelage du cheval à des chars de combat légers, donc avec des roues à rayons et non plus des roues pleines, a déjà transformé les guerres, donné de la vitesse et des mouvements de charrerie qui a transformé la guerre. Et l'utilisation qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire celle du cheval monté, est venue encore un millénaire après. Et c'est seulement vers 700 ans avant Jésus-Christ que on peut parler de véritable cavalerie. Et encore, on ne connaissait ni la selle ni les étriers. La selle est venue au début de l'ère chrétienne, ensuite il y a eu les étriers, les Romains qui ont colonisé le pourtour de la Méditerranée, les Grecs d'Alexandre qui ont conquis le Moyen-Orient et une partie de l'Asie centrale, ne connaissaient pas l'étrier, ce qui paraît complètement ahurissant à des cavaliers modernes.
Jean-Pierre Digard, est-ce que l'utilisation du cheval à travers les siècles varie beaucoup en fonction des zones géographiques ?
Oui, elle varie à la fois dans le temps et dans l'espace. Il y a déjà deux grands blocs géographiques et culturels qui se distinguent. En Orient, on rencontre trois types d'équitation. L'équitation sur des étalons, qui était pratiquée par les Iraniens, qui se battaient au choc, avec des chars ou montés, et avec des cavaliers, qu'on appelle des cataphractaires, c'est-à-dire des cavaliers avec des armures, et les chevaux en particulier avec des armures aussi, donc des étalons, des chevaux puissants au choc. Une équitation d'origine, c'est-à-dire des peuples ouralo-altaïques, turco-mongols, qui pratiquaient la technique du harcèlement, qui montaient des hongres. Et une troisième équitation qui était représentée par les bédouins de la zone syro-arabique, qui eux montaient des juments. Pourquoi montaient-ils des juments ? Parce que ils faisaient des raids, ils attaquaient des oasis dont il fallait traverser des déserts, ils franchissaient le gros de la distance montés sur de dromadaires avec une jument attachée à la selle, et au moment de faire l'attaque finale, qui exigeait beaucoup de rapidité,
ils montaient sur la jument,
parce que les juments hennissent moins, donc
sont plus discrètes
et ménagent l'effet de surprise.
Qu'est-ce que c'est qu'un hongre ?
Un hongre, c'est un cheval castré. Et ces trois équitations-là, on en a fait une synthèse qui a été réalisée par les Mamelouks, qui étaient des anciens esclaves utilisés par les Turcs, qui ont fondé le premier état, grand état moderne du monde arabe, en Égypte, au XIVe siècle. Là. Donc l'équitation arabe classique a été élaborée par les Mamelouks en Égypte à partir de ces trois équitations qu'on vient de parler.
Ça, c'est pour l'Asie.
Ça, c'est pour la zone Asie centrale et Moyen-Orient. En Europe, l'évolution est plus lente. L'étrier est introduit, dit-on, par les Arabes à partir du 8e siècle. Selon la théorie des historiens américains, l'introduction de l'étrier en Europe aurait permis à la chevalerie de développer cette équitation un peu lourde avec charge frontale à la lance, en donnant une stabilité aux cavaliers qui étaient inconnus, évidemment, lorsqu'il n'y avait pas d'étrier.
La selle, redites-nous.
Était élaborée en Asie à partir du début de l'ère chrétienne.
Okay,
et donc les étriers, 8 siècles après, vous voyez. Parce que pour avoir des étriers, il faut avoir la selle à harçon. Parce que d'abord, la selle, c'était simplement un coussin rembourré, puis un coussin rigidifié en mettant une espèce d'armature en bois à l'intérieur du coussin. C'est l'harçon. Et donc, il fallait avoir découvert et élaboré cet harçon avant de pouvoir penser à y suspendre des étriers. Et alors, parallèlement à cette culture de la chevalerie, qui est une culture d'élite, se développe une culture du cheval de trait. Et alors là, on est en plein dans la différenciation en classe sociale. Le cheval monté à l'élite et le cheval de traction, avec différentes sortes de charrettes, chariots, tombereaux, qui est l'instrument des travailleurs. Ça, c'est ce clivage entre la culture de la selle et la culture de l'attelage. C'est quelque chose qui durera presque un demi-millénaire avant que se développent au XVIIe siècle les attelages de luxe, les carrosses chez la noblesse, qui sont des pièces d'ébénisterie, de carrosserie. C'est l'ancêtre de la carrosserie, tirée par des chevaux dressés, élégants, etc.
RCF, la suite de l'histoire.
Donc les chevaux de selle d'un côté sont essentiellement destinés à la guerre, au combat.
À la guerre et aussi à la manifestation de la supériorité de classe, puisqu'on recherche des chevaux élégants qui ont une encolure dressée vers le haut, qui ont des allures élégantes en levant beaucoup les pieds, etc. Et ça, c'est le rôle des écuyers de préparer ces montures-là pour à la fois manifester la supériorité et aider à l'efficacité guerrière des chevaux de selle.
Par ailleurs, donc, quand on utilise le cheval pour le travail, c'est pour transporter des marchandises, par exemple, du matériel, du bois, mais aussi pour labourer.
Oui, c'est ça. Alors là, c'est des chevaux encore un peu indifférenciés.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que c'est le même type de cheval qui sert à tous les usages.
C'est-à-dire que les races ne sont encore pas aussi nombreuses que ce qu'on connaît aujourd'hui.
À l'époque, on ne parle pas de race, on parle de type de chevaux. Donc destrier, du chevalier, roncin pour le cheval de voyage, et puis le cheval d'attelage qui est bon à tout. Et il y a une jonction qui se fera entre ces deux zones géographiques et culturelles, Orient-Occident, par deux voies. D'abord par la poussée de l'Empire ottoman sur l'Est de l'Europe et la pénétration musulmane par l'Espagne. C'est là que, à partir du XVe siècle, l'Europe découvrira, à une époque où aussi les armes à feu se développent sur les champs de bataille, l'inutilité de l'armure et d'une cavalerie de choc. Et découvrira qu'il y a une cavalerie légère qui est apportée par les Turcs d'un côté, par l'Est, par les Arabes et les Berbères au sud, par l'Espagne, au XVe, XVIe siècle. Les cavaliers occidentaux forgeront cette équitation nouvelle. Elle vient d'être inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, l'équitation de tradition française, c'est-à-dire une équitation de légèreté.
Dépourvue
D'abord, il n'y a plus d'armure.
Ce matériel dont vous parliez.
Plus d'armure. Mm-hmm. C'est des chevaux qui peuvent aller à toutes les allures, très mobiles. On dit petites actions, grands effets. C'est-à-dire, le maître mot de l'équitation de tradition, de l'équitation de légèreté, c'est on ne doit pas voir les aides du cavalier. Le cheval doit changer d'allure, tourner à gauche, à droite. On ne doit pas voir ce que fait le cavalier. On appelle ça les aides, les actions de jambes, les actions de main. Les aides doivent être d'une légèreté et d'une discrétion telle qu'on ne doit pas les voir. Ça doit suffire à guider le cheval.
Voilà. L'art de l'équitation, Jean-Pierre Digard, il se perfectionne au fur et à mesure de l'usage et de l'utilité que l'on a du cheval.
Ça. Alors, il y a d'abord à partir du XVIe siècle, où on découvre cette équitation de légèreté, il y a des académies qui se créent, qui sont liées aux cours européennes, d'abord en Italie, puisque les guerres d'Italie, c'est là que s'est fait la jonction. Et puis les académies se sont, depuis l'Italie, développées en Espagne et puis en Europe, sous Louis XV, Louis XIV, avec Pluvinel, avec la Guérinière, des grands écuyers qui travaillaient les chevaux pour le roi. Et en même temps, ces académies, où les jeunes nobles apprenaient à monter à cheval, on disait que c'était des centres de formation des jeunes nobles. Ils apprenaient non seulement à monter à cheval.
C'était des académies royales.
Mais à danser, mais à se présenter, etc. Et alors, le troisième bloc géographique dont il faut parler, c'est l'Amérique, puisque à la même époque, les explorateurs espagnols et portugais se lancent à travers l'Atlantique en pensant en trouver en Inde, et ils abordent dans un pays où ils ont la surprise de ne pas trouver ni chevaux, ni moutons, ni bovins, ni rien de ces animaux-là.
Je sais la route. Mais même au bout du monde, je te trouverai, je reviendrai, je suivrai la rivière, l'éclat des étoiles. je prendrai mon envol comme l'aigle royal. Au-delà des frontières, des rêves solitaires, j'ai besoin de te voir.
Pourtant, vous nous avez dit que le cheval serait originaire de ce continent-là.
Oui, mais ce que je vous ai dit aussi, c'est qu'il a chaque fois périclité, et c'est en Asie seulement qu'il a pu se développer. Donc, Christophe Colomb débarque en Amérique, est surpris et désorienté, dépourvu, gêné par l'absence de monture. À chaque voyage, on met des chevaux sur les caravelles, on traverse l'Atlantique et on les lâche en se disant « on les retrouvera ». Au voyage suivant. Alors, c'est vrai dans un grand nombre de cas, mais c'est pas vrai dans beaucoup d'autres cas, parce que les chevaux s'échappent ou sont volés, et donc il y a des chevaux partout dans la nature. Et on appelle ça le marronnage, d'un nom qui désignait la fuite des esclaves, qu'on applique aux animaux domestiques qui retournent à l'état sauvage, faute de surveillance humaine. Et tous ces animaux se trouvent parfaitement à l'aise dans les steppes d'Amérique du Sud, ils prolifèrent, et passeront en Amérique du Nord, et chaque population autochtone les redomestiqueront,
les redomestiquera,
chacun en fonction de sa propre culture. Certains ne s'intéressaient pas à la domestication, ils les chassaient, ils les mangeaient. D'autres, il y avait la graisse qui les intéressait. Alors il y a des Indiens quand même qui se sont intéressés, au Chili notamment, et puis surtout en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, on n'imagine pas, quand on a vu des westerns, on n'imagine pas un Indien sans cheval.
C'est pas si naturel que ça.
La redomestication du cheval par des Indiens en Amérique du Nord s'est faite au 17e, 18e siècle. Et certains, dont le seul animal domestique était le chien, ont appliqué au cheval les techniques qu'ils utilisaient pour le chien. Et ça a donné des résultats à la fois diversifiés et très intéressants.
Pierre Digard, si pendant longtemps on a parlé de catégories de chevaux en fonction de l'usage que l'homme en avait, aujourd'hui on parle vraiment de races. Il y a énormément de races et de types de chevaux. Est-ce que ces races sont le fruit ou le résultat vraiment du travail de l'homme, du travail d'élevage de l'homme vis-à-vis du cheval ?
Oui, incontestablement. Mais il faut revenir un peu en arrière encore, parce que ce qui va décider finalement d'une démarche raisonnée, ne disons pas encore scientifique, mais raisonner sur l'élevage du cheval, c'est la rareté. C'est-à-dire que, à partir surtout du XVIIe siècle, on utilise les chevaux pour la guerre, on en perd beaucoup, et pour maintenir un certain niveau de cavalerie face à l'ennemi, il faut des bons chevaux, endurants, qui peuvent à la fois parcourir de longues distances. Donc, il faut une bonne maréchalerie, le fer à cheval. C'est une invention aussi relativement récente. Ça a d'abord été ce qu'on appelait l'hyposandale, c'est-à-dire quelque chose qui s'attachait sur les pieds pour éviter l'usure des sabots quand on marchait sur des pavés. Ensuite est venue la ferrure à clous, ce qui n'est pas une mince affaire de savoir ferrer des chevaux avec des clous en leur fonçant le sabot. Il y a des artistes maréchaux ferrants qui étaient un métier tout à fait estimé, tout à fait indispensable. No foot, no horse, disent les Anglais, pas de pied, pas de cheval. Un cheval qui a une boiterie, c'est un cheval qui est immobilisé, c'est impossible. Bon. Ensuite, il fallait trouver des chevaux. Tous les royaumes d'Europe étaient dans la même situation, tout avait besoin de chevaux. Aller en acheter chez les alliés, c'était parfois possible, mais les alliances n'étaient pas toujours les mêmes. À un moment, l'Espagne était le grand réservoir de chevaux, mais l'Espagne n'a pas toujours été du bon côté. Donc, à un moment, il a fallu se préoccuper vraiment d'élever des chevaux qui soient des chevaux de bonne qualité, donc de les sélectionner en fonction d'un modèle, d'une taille et d'aptitude pour la guerre et pour différents autres usages. Et c'est comme ça que a été créé, dans l'héritage de Colbert, pas par Colbert, mais par un de ses successeurs, l'artiste Seignelay, les haras royaux, avec un corps de garde étalons, où il s'agissait de sélectionner des étalons pour les faire se reproduire avec certaines juments. Et le type de croisement qui était préféré à l'époque, c'était d'essayer d'améliorer les juments locales par des croisements avec des étalons orientaux.
Ce qu'on appelle les purs sang arabes ?
Pas encore. Les purs sang arabes, justement, c'est sur le même principe. Ça naîtra d'Angleterre à partir d'une jumenterie locale croisé accidentellement avec un étalon oriental qui servait à l'époque de bout en train. Le bout en train, c'est un étalon de mauvaise qualité qu'on présente à la jument pour s'assurer, un, qu'elle est en chaleur et qu'elle ne va pas botter, ruer dans l'étalon, et pour faire monter les chaleurs. Bon. Et au moment où la jument est réceptive, on enlève le bout en train et on présente le véritable étalon. Bon. Et puis, cet étalon oriental, qui était, je crois, un barbe, pas du modèle encore prisé à l'époque, on a eu marre de servir de bout en train et il s'est échappé, il a couvert la jument. Et les produits étaient, dit la légende, étaient splendides et c'est ça l'origine de ce qu'on appelle les pur sang anglais. Donc ils n'ont rien de pur sang puisqu'à l'origine c'est un métissage. Bon.
Oui, en France alors ?
Alors en France, il s'agissait d'avoir des gardes d'étalons qui avaient des étalons sélectionnés et qui couvraient des juments de manière à progressivement améliorer la cavalerie.
Et ça s'est avéré efficace ?
Ça s'est avéré parfaitement efficace. À partir de là, progressivement, on est passé de type de chevaux, chevaux de cavalerie lourde, chevaux de cavalerie légère, et dans les chevaux de traction, ce qu'on appelait les carrossiers, qui étaient des chevaux de transport de voyagers, carrossiers qui tiraient au trot, et les chevaux de très lourd qui tiraient au pas. C'est ceux-là qui labouraient, qui tiraient les trombeaux, etc. On avait déjà augmenté la palette de types de chevaux, et dans le courant du 19e siècle, on en est arrivé avec la zootechnie, l'amélioration raisonnée des races et des services des animaux, chevaux et autres, on est arrivé à la notion de race. Le pur sang anglais, le pur sang arabe qui a été reconnu, et puis des races régionales comme le percheron, le comtois, et puis plus tard encore le trotteur. Et dans la foulée, il y a eu les courses. Les courses, à l'origine, étaient des instruments de sélection des meilleurs chevaux. Les courses de trot, notamment, qui sont une spécificité française, ont été créées pour sélectionner un cheval d'armes, c'est-à-dire un cheval destiné à l'armée qui pouvait servir aussi bien de cheval de selle et de cheval de trait léger pour des batteries d'artillerie.
Et donc les hippodromes étaient simplement le lieu où ces chevaux étaient testés ?
Voilà, c'est ça, c'est ça. Là-dessus, il y a une tradition, les Anglais, comme beaucoup en ces matières, étaient en avance sur nous, et les premières courses ont été importées, c'était sous le règne de Louis XVI, à partir de l'Angleterre, ont eu lieu sur le Champ de Mars à Paris.
Est-ce que des particuliers se sont pris de passion pour telle ou telle race
et
se sont lancés dans l'élevage ?
Bien sûr, bien sûr. Et non seulement pour telle ou telle race, mais beaucoup en ont créé. Il y a eu un espèce de tournant. Au début, on créait des races en fonction de critères d'utilité, mais certains passionnés se sont mis à créer des races dont ils étaient en quelque sorte des inventeurs, pour se différencier du voisin, ou pour faire comme le voisin. Ou ma collègue Bernadette Lizet a fait un livre tout à fait extraordinaire qui s'appelle « La bête noire », où elle démontre que le cheval noir du Limousin, c'est à l'origine un percheron, mais un percheron noir, alors qu'en général les percherons sont gris. Un percheron noir pour rivaliser avec son voisin dans le Morvan, qui lui était l'inventeur du bœuf charolais, donc des bœufs blancs.
Et il y est parvenu.
Voilà, il y est parvenu. Il y a une part d'irrationnel, de rivalité régionale, de...
Bon, et d'intérêt, de grands intérêts quand même.
Et d'intérêt,
pour cette
question. Pour ça qu'on a maintenant, en France, on a 9 races reconnues, je crois qu'on est passé maintenant à 11 en reconnaissant d'autres, qui étaient des races régionales, mais pas du tout, comme on croit souvent, des races issues du fin fond de l'histoire, non. Des créations récentes de l'homme pour faire des races régionales ou différentes du voisin. Et alors, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que dans la foulée de la maréchalerie est née l'hippiatrie, parce que c'était très important de pouvoir soigner les chevaux. Et c'est de l'hypiatrie qu'est née la médecine vétérinaire. La première école vétérinaire a été fondée par un écuyer, Bourgelat, à Lyon. Et ensuite, l'école vétérinaire d'Alfort. Et c'était la médecine du cheval qui, peu à peu, s'est étendue aux autres animaux domestiques. Mais le cheval, c'était très important. C'était l'animal de l'élite et l'animal de la guerre.
RCF, la suite de l'histoire.
Avec un soin spécial, pourquoi ? Pour les jambes, notamment, du cheval ?
Les jambes, très important, les pieds, et puis les conditions de la guerre sont très, très difficiles. Mmh. Il y a des maladies qui se développent. Quand on fait la guerre, on ne peut pas toujours desceller les chevaux, les entretenir comme il faudrait. Les chevaux doivent marcher, faire de longues étapes. Au terme d'une longue étape, faire une charge au galop, etc. Il y a des blessures qui se produisent, il y a des galtes qui se développent, des choses comme ça. C'est très important. Oui.
Qu'est-ce qui caractérise le plus le cheval, en fait ? D'abord, c'est un animal grégaire, à l'état naturel, disons.
Oui, c'est un animal grégaire.
Vous avez dit craintif, mais aussi très curieux.
Oui, curieux, gourmand, mais surtout très craintif, très réactif, prompt à s'emballer. Donc c'est un animal dont le maniement est difficile. C'est pas un animal si facile que ça à manipuler.
Il faut apprendre à le connaître.
Oui. C'est un animal dont le maniement demande un très long apprentissage.
Est-ce que des hommes particulièrement se sont intéressés justement au comportement équin, au même titre qu'on a, on s'est intéressé au fait de soigner le cheval ou de le monter
Mais ça fait partie.
Tout allait ensemble.
Tout allait ensemble. On peut pas monter sur un cheval si on connaît pas son comportement. Sinon, on se fait débarquer.
Ça parle un cheval ?
Non, ça
ne parle pas. À travers son attitude.
Et c'est même assez peu, ça manifeste assez peu, ça n'interagit pas avec l'homme comme un chien, ni même comme un chat. Un chien, on peut jouer avec un chien, jouer avec un cheval, c'est un numéro de cirque qui demande un dressage très prolongé.
Il n'y a pas quelque chose de spontané.
C'est un espèce de bel indifférent, le cheval. Il ne vient pas quand on l'appelle. Il ne manifeste pas sa joie, il ne manifeste pas son aversion. C'est un bel indifférent. Oui. C'est peut-être ce qui séduit tant les femmes.
Jean-Pierre Digard, vous nous avez expliqué que pendant longtemps, le cheval a été considéré comme une nourriture par l'homme. Aujourd'hui, manger du cheval, ça provoque très souvent une espèce d'aversion, comme s'il y avait un tabou autour de cette question. L'hypophagie, c'est pourtant quelque chose de réel. D'ailleurs, il y a encore aujourd'hui des gens qui mangent de la viande de cheval. En fait, ça ne fait pas l'unanimité. Hein. C'est quand même moins évident et moins naturel, a priori, que de manger du bœuf ou du porc.
Oui, cette aversion dont vous parliez est un phénomène récent qui est né avec le rapport particulier que beaucoup de gens maintenant entretiennent avec des chevaux, dont on parlera plus tard. Mais ce qu'il faut souligner pour l'hypophagie, c'est que c'est quelque chose d'ancien. C'est né à... On mangeait du cheval avant même de l'utiliser, de lui monter dessus ou de l'atteler. C'était sa première utilisation. Dans certaines cultures, ça s'est toujours fait et ça pose pas de problème. Par exemple, en Italie. Ça ne se fait pas dans le monde musulman. On mange pas de cheval. Ça n'est pas absolument interdit, mais c'est makrouh, c'est-à-dire c'est mieux de pas le faire. Donc la plupart des musulmans s'en abstiennent. En Europe occidentale, la consommation de la viande de cheval a été bannie par l'Église comme une survivance païenne. C'est seulement au XIXe siècle, siècle du positivisme, où on essayait d'être rationnel, que les choses ont commencé à changer sous la double initiative d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, qui était un zoologiste, professeur au Muséum national d'histoire naturelle, et d'un ancien vétérinaire militaire qui s'appelle Émile Decroix, qui était un des fondateurs de la Société protectrice des animaux. Et ces deux personnages ont agi ensemble pour faire entrer la consommation de viande dans les mœurs alimentaires des Français, chacun pour deux raisons différentes. Ce qui intéressait Geoffroy Saint-Hilaire, c'était d'améliorer l'alimentation de la population des villes qui augmentait, des ouvriers dont il fallait maintenir ou améliorer la santé, alors que pour Decroix, c'était la protection du cheval. Et Decroix faisait le calcul que si des propriétaires de chevaux avaient l'espoir de pouvoir en tirer quelques sous à la fin de leur vie en les livrant à la boucherie pour la viande, on ne verrait plus le spectacle qui était courant à l'époque de voir des chevaux mourir d'épuisement sous les coups des charretiers dans les centres-villes. Il paraît que ça se voyait souvent à Paris. Bon, il y a toute une iconographie là-dessus. Et alors, Geoffroy Saint-Hilaire et Decroix ont organisé des campagnes, des banquets hypophagiques, ont diffusé des manuels avec des façons de préparer la viande de cheval, de la découper, etc. Si bien que un arrêté ministériel est paru en 1860, si mes souvenirs sont exacts, enfin au milieu du 19e siècle, autorisant l'ouverture de boucheries chevalines, mais ce devait être des boucheries particulières. Ça ne pouvait pas être dans les boucheries normales qui servaient du bovin ou du mouton. Ça devait être des boucheries particulières. Et d'ailleurs, le métier de boucher chevalin est un métier particulier, car la viande de cheval est riche en aponevrose, c'est-à-dire que c'est une viande très nerveuse, comme le cheval, et c'est une viande qui demande beaucoup de préparation. Il y a beaucoup de déchets, et donc ces déchets, il faut les enlever. Si bien que, contrairement à ce qu'on dit, que la viande de cheval est une viande chère, en fait, elle est moins chère parce que c'est une viande absolument sans déchets.
RCF, Véronique Alzieux.
Est-ce que cette consommation est entrée dans les mœurs véritablement à un moment donné ?
Alors, elle est rentrée dans les mœurs des classes moyennes, progressivement. On dit que, et c'est vraisemblable, que l'étape décisive, ça a été le siège de Paris, où on mangeait n'importe quoi, même des rats. Pourquoi pas manger du cheval ? Bon. Et en tout cas, ce qui est intéressant à souligner, c'est que donc c'est un phénomène des classes moyennes, parce que les deux couches de la société qui ont le plus résisté à la campagne pro-hypophagique, c'est d'une part les nobles et les officiers de cavalerie, pour qui le cheval était leur compagnon de danger et leur faire valoir, et les classes très populaires qui travaillaient avec les chevaux. Donc les paysans, les ouvriers qui travaillaient avec des chevaux, les mineurs qui les emmenaient au fond de la vigne, au fond de la mine, etc. C'est toujours resté une consommation, donc ça s'est installé, mais c'est toujours resté une consommation minoritaire. Et progressivement, avec le développement des sensibilités, notamment au XXe siècle, à partir après la Deuxième Guerre, c'est une consommation qui diminue peu à peu, qui a connu un regain d'intérêt au moment de la crise de la vache folle. Depuis, il semblerait que la consommation de viande de cheval se soit stabilisée à entre 1 et 2% du volume de la consommation carnée des Français.
Ce qui est quand même très peu.
C'est très peu, voilà, c'est très peu. Et d'ailleurs, maintenant, on ne trouve quasiment plus de bouchers chevalines. Tous les bouchers chevalins sont des forains. On en trouve sur les marchés, mais il n'y a quasiment plus de boutiques de bouchers chevalines.
Pendant longtemps, le cheval a fait partie du quotidien des gens, que ce soit à la campagne, que ce soit en ville. Vous parliez des chevaux qu'on voyait dans les grandes villes. Jusque, disons, à la moitié du XXe siècle, peut-être un peu avant, ça faisait partie du quotidien et du paysage.
Oui, tout à fait. J'avais fait le calcul. Contrairement à ce qu'on a souvent cru, le XIXe siècle, qui est le siècle de la mécanisation puis de la motorisation avec la vapeur, c'est aussi le siècle où il y a eu le plus de chevaux, puisque à la fin du 19e siècle, on était à 3 millions de chevaux en France. Alors que on est tombé, maintenant on est à, c'est remonté, on en est à 1 million. Mais ce qui a le plus diminué, c'est les races de très lourds. Et d'ailleurs, pour sauver les races de très lourds, l'administration des haras, dans les années 70, a, pour sauver ces races, qui était menacée d'extinction.
Parce qu'on n'en avait plus besoin.
Voilà. Parce que c'est elles qui ont disparu le plus, puisque plus de chevaux dans l'agriculture, avec le tracteur, c'est ces races qui étaient menacées de disparition. Or, c'est un patrimoine génétique précieux.
Les haras ont pris le relais?
Les haras ont décidé de développer une filière viande, d'insérer ces races lourdes dans des filières viande. Ça a relativement bien marché. Maintenant, on élève des chevaux lourds pour la consommation. Mais assez curieusement, la viande des chevaux lourds est plus blanche que la viande des chevaux de selle et des chevaux de course. Or, les amateurs français de viande de cheval aiment la viande très rouge. La manche saignante, elle aime très rouge. Et donc, le consommateur français consomme plutôt des chevaux importés d'Europe de l'Est. Et la production française de chevaux lourds, plus blanche, de viande plus blanche, convient parfaitement au goût des Italiens. C'est-à-dire que nous élevons des chevaux de viande à destination principalement du marché italien.
Sabre ! Au clair ! Lance ! Pointez ! Chargez !
Mais en France, encore une fois, c'est quand même quelque chose d'assez marginal.
Oui, c'est. Alors, le rapport au cheval, dont j'avais commencé à vous dire, j'avais fait le calcul, avant, au début du XXe siècle, il y avait un cheval pour 10 habitants. Maintenant, on doit être à un cheval pour 100 ou 200 ou 300 habitants. Donc, au début du siècle, même quand j'étais enfant.
Il n'était pas rare de.
On voyait des chevaux dans la rue, on voyait des chevaux dans les campagnes. Tout le monde savait ce que c'était qu'un cheval, connaissait l'odeur, sachait ce que c'était du crottin, avait touché un cheval, en avait vu de tout près, même s'ils n'en avaient jamais utilisé. Maintenant, en dehors des centres équestres, on ne voit plus de chevaux. Centres équestres et hippodromes.
Jean-Pierre Digard, alors que pendant des siècles, le cheval a été considéré comme un animal utile pour la guerre, utile pour montrer sa supériorité sociale, utile pour le travail des champs, aujourd'hui, il a quasiment perdu ce statut d'utilité pour un statut d'animal de compagnie, avec une charge affective très forte. De ce point de vue-là, les mentalités ont donc énormément évolué ces derniers temps.
Alors là, je crois que vous allez un peu vite en besogne en disant qu'il est devenu un animal de compagnie. Il faut remonter un peu en arrière. Je crois que le fait majeur de ce XXe siècle, où en effet les choses ont basculé, c'est le changement sociologique et culturel des utilisateurs du cheval. Jusqu'à la Deuxième Guerre, c'est un cheval de travail, donc les mines, les paysans. Après, dans les années 50, ces chevaux-là ont été éliminés par le tracteur. L'essentiel d'ailleurs du million de chevaux que compte aujourd'hui la France sont essentiellement des chevaux de selle et de loisirs. Bon. Donc pour les chevaux de selle, les utilisateurs traditionnels étaient bien sûr des nobles, mais surtout des militaires et des hommes en tout cas. Peu à peu, les civils d'une élite se sont emparés de ce cheval et ont transposé dans le domaine civil des épreuves qui servaient aux militaires à sélectionner les chevaux. C'était le concours du cheval d'armes qui est devenu ce qu'on appelle le concours complet, qui fait partie d'une des trois disciplines olympiques. Il y a le CSO, concours de saut d'obstacle, le dressage, et puis le concours complet qui comprend une épreuve des deux précédentes, saut d'obstacle, dressage, mais aussi un cross en milieu naturel. Au fur et à mesure où la clientèle des centres équestres est passée des vieux aux jeunes, des hommes aux femmes, principalement sous l'influence du phénomène poney, qui est là aussi un emprunt fait aux Anglais, la population des clients des centres équestres s'est considérablement rajeunie et féminisée. Très schématiquement, puisqu'il s'agissait de mettre à poney des enfants, on a pensé qu'il était naturel que les enseignantes ne soient plus, quand moi j'ai appris à monter à cheval, un adjudant à la retraite de la garde républicaine, mais des femmes avec d'autres méthodes, plus orientées vers le jeu pour ne pas dégoûter des enfants. Parce que franchement, se faire des heures de tape-cul au manège avec un mec planté au milieu à vous gueuler dessus, une chambrière à la main, c'est plus le but. Puisque maintenant, ça n'est plus des centres équestres associatifs qui maintenaient une certaine équitation d'élite, mais des centres équestres qui sont des établissements commerciaux.
De loisirs,
et qui ont intérêt à attirer de la clientèle et à la garder. Voilà.
Donc Louise, nous allons maintenant aborder un cheval au box et lui mettre le licol. Donc avant de rentrer dans le box, hein, on regarde par-dessus la porte, voir un petit peu l'attitude de notre poney. Donc s'il est calme, s'il est debout, couché, et on lui parle, on l'appelle. Hein, donc voilà, elle est venue nous voir, hein, elle a vu qu'on était là. Hein, sinon, ben, je l'appelle, hein, Satinette. Voilà, puis je vois un petit peu, j'observe un petit peu son comportement.
Les enseignants ont changé, les méthodes d'apprentissage ont changé, les chevaux ont changé.
Les cavaliers ont changé.
Les chevaux ont changé, c'est très important parce que très longtemps, les chevaux que montaient les cavaliers de loisirs, c'était le rebut des courses. Maintenant, c'est des chevaux, les poneys, bien sûr, de différentes catégories.
Les poneys, c'est une race de cheval ?
Non, c'est tous les chevaux qui font moins de 1,42 m. Mais il y en a des Shetland sur lesquels on met des enfants de 5 ans. Et puis, il y a des poneys, des grands poneys, qui sont presque des chevaux réduits sur lesquels des jeunes cavaliers font des concours hippiques de bon niveau.
Mais généralement, les chevaux de club, donc de centre équestre.
Oui, c'est de la cavalerie, ce qu'on appelle la cavalerie, c'est-à-dire l'ensemble des chevaux, a fait beaucoup de progrès, de même que les méthodes d'enseignement. Mais le fait que les cavaliers ne soient plus les mêmes, que ce soit non plus l'élite mais des classes moyennes, que ce soit non plus des hommes mais des femmes, et même des jeunes filles et même des petites filles à 80%, fait que le rapport au cheval a considérablement changé.
C'est-à-dire ?
Les filles sont éduquées dans le, employant un mot anglais que j'aime pas beaucoup, le care. Pour vous parler plus concrètement, dans les centres équestres, les garçons, ce qui les intéresse, c'est de monter sur le cheval. Alors qu'avant, il y a toute une étape de préparation. Il faut curer les pieds, étrier le cheval, le seller, le brosser, etc. Et après l'heure d'équitation, rebelote, désarnacher, brosser, refaire les pieds, etc. Ramener le cheval. Les filles adorent ça. Et les garçons ne le font jamais parce qu'il y a toujours deux ou trois petites ou jeunes filles qui sont prêtes à le faire à leur place. Bon. Donc, il y a, du fait de l'équitation des filles, un rapport particulier au cheval qui est dans ça, dans la préparation du cheval. Et alors,
mais ça va même plus loin que ça. Il y a un attachement très fort.
Alors, du coup, tous les prestataires de services, les marchands de matériel et tout le secteur qui tourne autour de l'équitation, il y a tout un truc qui s'est développé, qui a dit, puisque les filles, c'est le marché, on va tout féminiser. Donc, maintenant, vous avez des équipements roses, les petits romans d'amour entre les petites filles et leurs poneys. Il y a toute une espèce de sensiblerie
Et donc, et l'équitation et le milieu équestre est en train de se féminiser beaucoup ?
Ah ben, il est féminisé complètement. 80% des cavaliers sont des cavalières. Et pareil pour les enseignants. Bon, c'est ce que j'appelle des nouveaux cavaliers. Et ces nouveaux cavaliers ont une culture complètement différente de l'ancienne culture qui était celle de ce qu'on appelle l'homme de cheval. Pour l'homme de cheval, le cheval, c'était un privilège de classe. L'homme de cheval, c'est une professionnalisation. Et on respectait, la devise de l'homme de cheval, c'était le respect du cheval en tant que on l'utilise. Qui veut aller loin ménage sa monture. Maintenant, la culture des nouveaux cavaliers, c'est une culture ludique. On veut plus se taper le cul. On s'amuse. On veut se faire des copains. C'est une sociabilité, etc. Et c'est une culture, troisième caractéristique, sentimentale. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le respect du cheval, on est dans l'amour du cheval. Bon. Et c'est là où on tombe dans, en fin de chaîne, dans ce que vous disiez au début de cette émission, l'animal de compagnie. On est dans un mouvement qui a tendance à rejoindre la culture de l'animal de compagnie. Or, c'est une culture mortelle pour le cheval.
Pourquoi ?
Car le cheval ne sera d'abord jamais un animal de compagnie. Pour des raisons qu'on a évoquées, le cheval ne pourra jamais rivaliser ni avec un chien ni avec un chat. D'abord parce qu'il est gros, ensuite parce que il sait pas maîtriser ses sphincters, donc il crotte quand on a envie de crotter. C'est pas avant, c'est pas après, c'est là où c'est. Hein. Bon. Et puis ce statut d'animal de compagnie pour le cheval, c'est un statut mortel car une caractéristique universelle de l'animal de compagnie, c'est de ne servir à rien d'autre qu'à la compagnie de son maître.
La suite de l'histoire.
Pour l'instant, le cheval a, Dieu merci pour lui, un statut agricole qui va avec une fiscalité. Si jamais il devait devenir un animal de compagnie, il y a un risque d'impossibilité d'utiliser le cheval. Car il y a une convention européenne de protection de l'animal de compagnie qui a été ratifiée par la France en 2003, qui est maintenant inscrite dans le code rural, qui donne de l'animal de compagnie une définition tellement large qu'on peut y faire rentrer le cheval et qui interdit l'usage sur l'animal de compagnie de moyens de dressage artificiels. Or, un mors, qu'est-ce que c'est ? Une cravache, qu'est-ce que c'est ? Des éperons, qu'est-ce que c'est ? Etc., etc. Donc, je crois que les gens qui militent pour faire coller au cheval le statut de l'animal de compagnie, je crois que c'est des gens, soit qui sont mal intentionnés, soit qui n'ont pas bien réfléchi à la question. Il y a un danger, là, j'espère que on sera raisonnable et qu'on s'arrêtera à la tendance.
Pour terminer quand même, Jean-Pierre Digard,
oui,
ces entretiens...
Sur une note optimiste.
En tout cas, une question.
Oui.
Est-ce que vous n'êtes pas vous-même étonné par la résistance dont le cheval fait preuve dans cette société où, a priori, on n'a absolument plus besoin de lui ? Il aurait pu tomber complètement en désuétude ou dans l'oubli. On aurait pu totalement se détourner de cet animal. Qu'est-ce qui explique qu'il résiste ?
C'est un animal tellement fascinant. En même temps, c'est un animal qui demande beaucoup d'efforts de la part de l'homme. Un cheval, c'est un animal gros, qui peut être dangereux, qui fait des morsures terribles, qui peut vous tuer s'il vous donne une rouade. Donc, il faut savoir le manipuler. Et le manipuler, c'est une chose. Le monter et obtenir des changements d'allure, de sauter une barre, d'aller à droite plutôt qu'à gauche, s'il lui veut aller à gauche, de le faire reculer alors que... Ça suppose une vraie connaissance de l'animal. Et je crois que les gens qui aiment vraiment les animaux se trouvent dans les milieux du cheval. Parce que ça oblige vraiment à connaître le comportement du cheval, ses besoins, ses capacités, ses résistances, pour les vaincre. Et encore une fois, les vaincre, c'est pas à coup de cravache que ça se passe.
Un cheval, c'est un travail mutuel.
C'est un travail mutuel, c'est un travail d'acceptation mutuelle. Et encore une fois, la règle d'or, c'est de donner au cheval envie de faire ce qu'on a envie qu'il fasse.
Il a encore de beaux jours devant lui, le cheval ?
J'espère.
Un très grand merci Jean-Pierre Digard de nous avoir accompagnés dans ces émissions. Je rappelle que vous êtes ethnologue, que vous êtes spécialiste, on l'a dit, en particulier de l'Iran, mais aussi donc du cheval. Vous êtes l'auteur chez Actes Sud d'une histoire du cheval et je ne l'ai pas dit au début, mais vous êtes également directeur de recherche émérite au CNRS et membre de l'Académie d'agriculture. Encore merci à vous. Merci à Elisabeth de Monclos qui m'a aidé à préparer ces émissions. Et également à Pierre-Henri Paget et à Arnaud Morel-Darleux qui ont assuré la technique.